Est-ce qu'il existe un profil type du violeur en général, et plus précisément ensuite du violeur d'enfants?
Là, pour le coup, il faut distinguer en fonction des sources d'enquête. L'un des enseignements les plus importants, de mon point de vue, des enquêtes de victimation, c'est que les violences sexuelles sévissent dans tous les milieux sociaux. Et ça, je répète, c'est un des enseignements les plus importants parce que pendant longtemps, on a effectivement eu une sorte de figure type du violeur, comme on a eu une figure type de l'assassin, une figure type du violent de façon générale. Et alors, ça évolue, hein, en fonction des périodes, mais bien souvent, c'était le fou, l'errant, le malade, le sauvage, le paysan, l'étranger qui revient souvent, et le dépravé. Là,
Le
on a comme le
vagabond.
vagabond, on a comme ça ce qu'on peut appeler des figures de la dangerosité, hein, c'est-à-dire des personnes qui viennent incarner comme ça le mal, au fond, disons-le. Et pendant longtemps, on a estimé dans nos représentations que les violences sexuelles, le violeur et a fortiori le violeur d'enfants était alors un étranger dépravé, fou. Voilà, alors là, c'était carrément le summum. Et puis, pour le coup, il faut le leur reconnaître, ce sont notamment les féministes les premières, qui ont dans les années 60-70 dit, mais nous, quand on va à la rencontre des femmes victimes de violences sexuelles, on s'aperçoit qu'elles viennent de tous les milieux sociaux. Et que les agresseurs sexuels sont donc aussi issus de tous les milieux sociaux, puisque dans la majorité des cas, ils se connaissent. Elle l'avait dit comme ça, de façon un peu intuitive, de façon en regardant autour d'elle, d'ailleurs, ça leur avait valu un certain nombre de problèmes de la part alors, sur l'échiquier partisan d'une certaine façon, parce que à droite on disait bah non, les violeurs ça peut pas venir des classes sociales aisées, ce sont des dépravés, des malheureux éventuellement, mais elles ont eu aussi des problèmes plutôt vers les partis ou les formations partisanes de gauche, parce qu'elles disaient aussi ça peut aussi exister dans les milieux sociaux chez les ouvriers, chez les étrangers, chez les immigrés. Voilà, cette parole, ça vient de tous les milieux sociaux, ça n'a pas été simple à entendre. Et
Donc c'est un fait, hein. Ça vient vraiment de tous les milieux
pour le coup,
sociaux.
les enquêtes de victimation, donc les enquêtes scientifiques, ont montré que ça venait de tous les milieux sociaux. En tout cas, que les victimes étaient de tous les milieux sociaux, si on veut être rigoureux.
Très bien.
Mais dans la mesure où, dans la grande majorité des cas, les violeurs, les auteurs évoluent dans les mêmes sphères psychologiques, affectives et sociales que les victimes, résidentielles, géographiques, familiales que les victimes. On peut donc en déduire que les agresseurs viennent aussi de tous les milieux sociaux. Et ça a été un enseignement fondamental. Sauf que, quand on regarde maintenant les affaires qui arrivent en justice, alors là, on est singulièrement étonné de voir que les affaires qui arrivent en justice sont notamment celles où les auteurs sont issus des milieux sociaux défavorisés. Et plus on va loin dans la chaîne pénale, c'est-à-dire plus on va vers les assises, au fond, plus le profil social des accusés pour la cour d'assises, hein, est un profil social d'une personne située aux échelons les plus bas de l'échelle sociale. Où sont passés les autres?
Justement.
Là, il y a un phénomène tout à fait étonnant. Alors, il faut expliquer deux choses. Il faut, d'une certaine façon, expliquer la sous-représentation des personnes issues des milieux sociaux les plus favorisés et la sur-représentation des personnes issues des milieux sociaux défavorisés, pour parler en ces termes un peu binaires. D'abord, la question, c'est la plainte ou le fait d'aller porter à la connaissance de la police ou de la justice, le fait. Hypothèse de travail, voilà, il faudrait faire des recherches pour le savoir. Est-ce qu'on parlerait moins des violences sexuelles dans les milieux sociaux favorisés que dans les milieux sociaux défavorisés? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et c'est quelque chose d'intéressant à dire parce que on pourrait avoir l'impression que ce serait plutôt, enfin, c'est plutôt dans les milieux sociaux favorisés, conscientisés, lettrés, diplômés, éduqués, etc., que on aurait tendance à en parler plus. Eh ben, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident et il est tout à fait recevable à titre d'hypothèse que ce soit plutôt dans ces milieux-là que l'on tait des violences sexuelles et que ce serait plutôt dans d'autres milieux sociaux qu'on aurait tendance à les déclarer, à les énoncer. Cela étant, il faut aussi bien comprendre que les milieux sociaux dits défavorisés sont, pour le dire en termes simples et un petit peu lapidaires, sont aussi davantage dans le collimateur des organes du contrôle social. Par exemple, ce sont déjà des clients des services sociaux, ce sont déjà des clients des services éducatifs, ce sont déjà éventuellement des clients des services policiers. Donc dès lors, les comportements, les agissements des personnes dans les milieux sociaux défavorisés sont davantage scrutés, sont davantage contrôlés, sont davantage surveillés que les agissements ou les comportements qui peuvent avoir lieu dans les milieux sociaux favorisés. Le résultat, en tout cas, est celui-ci. On peut y ajouter le fait que dans les milieux sociaux dits favorisés, pour ceux dont les affaires arrivent en justice, ils se défendent beaucoup mieux. Ils se défendent beaucoup plus. Le niveau de diplôme, le capital éducatif, comme on pourrait le dire, éventuellement le capital financier aussi, font que lorsqu'ils arrivent devant un juge d'instruction, enfin éventuellement d'abord un procureur, puis ensuite un juge d'instruction, a fortiori un policier en amont, ils s'en laissent beaucoup moins compter, ils ont du répondant, ils ont éventuellement les moyens, ils ont la culture juridique minimale, ils ont éventuellement les moyens de pouvoir prendre un bon avocat, ils savent fabriquer du réseau, ils ont une position sociale qui fait que de toute façon, le juge des libertés et de la détention aura peut-être plus de scrupules de les placer en détention provisoire. Et compte tenu de la grande difficulté à établir les éléments constitutifs du viol, s'il nie, si l'affaire est un peu ancienne, ça va être assez facile pour que l'affaire, par exemple, soit classée et qu'il se retrouve moins souvent en proportion, en tout cas aux assises, que d'autres. Qu'un monsieur qui a pas de culture juridique du tout, qui éventuellement parle très mal le français, qui comprend strictement rien à la procédure pénale et qui va être un peu intimidé par un juge qui a un bac plus 5. Voilà. Parce que l'on sait aussi que l'attitude du mis en cause ou du mis en examen ou de l'accusé, etc., est extrêmement importante dans le cadre de la procédure pénale.
Alors, pour revenir aux agresseurs sexuels, ces violeurs, est-ce que vous avez retrouvé les mêmes profils lorsque la victime était un enfant ? Ou est-ce qu'il y a une différence ?
La majorité des affaires dont les victimes étaient des enfants sont des affaires intrafamiliales.
Ah, donc on peut parler d'inceste ?
On peut parler d'inceste, tout dépend ce qu'on met sous le mot inceste. En tout cas, on a trouvé quelques affaires où il pouvait y avoir des enfants ou des adolescents victimes en dehors du cadre familial, mais c'est vraiment une minorité. Et ça concernait plutôt des adolescents. Alors, un mot quand même sur ce type d'affaires, là c'était surtout des affaires, pas des enfants, des ados, des 13, 14, 15, 16 ans plutôt, hein, qui se sont trouvés embarqués, on va dire, dans une relation avec un adulte, très souvent un homme, qui annonçait, lui énonçait, affichait une relation amoureuse avec ce jeune. Et l'enfant ou le jeune, qui d'ailleurs parfois abondait dans ce sens-là, hein, qui pouvait également dire qu'il avait été question de tendresse, de relation amoureuse, mais bon, la loi stipule, je le rappelle, que toute relation sexuelle est interdite entre un mineur de 15 ans et moins et un adulte de plus de 18 ans.
En France.
Donc, amour ou pas, de toute façon, la loi l'interdit. Donc, on a trouvé comme ça un volet d'affaires de relations, enfin, si l'on en croit en tout cas les auteurs des agressions sexuelles, de relations amoureuses, de pédophilie au sens étymologique du terme presque, hein, c'est-à-dire d'un homme qui disait être attiré par des jeunes ou par des enfants qui les aimaient et avec lesquels ils pouvaient, ça pouvait déboucher sur des partages d'actes sexuels, d'attouchements, etc., etc. Ça, c'est une première forme, je dirais, d'affaires ou un premier type d'affaires dans lesquels des enfants pouvaient être, des jeunes, des adolescents pouvaient être impliqués. Mais le gros des affaires dans lesquelles des enfants étaient impliqués en tant que victimes, ce sont des affaires intrafamiliales. Les auteurs étant les pères, les beaux-pères, les oncles ou les grands-pères, les hommes de la famille. Donc ce sont, dans ce qu'on a pu voir, des enfants effectivement qui font l'objet de relations sexuelles incestueuses, c'est-à-dire des relations sexuelles commises par des pères, des hommes de la famille d'une certaine façon. En général plutôt des filles, mais également des garçons, puisque dans notre enquête, nous, on a trouvé, là aussi, si mes souvenirs sont bons, ce sera à revérifier, on a trouvé 20% de victimes de sexe masculin. Voilà. Ce qui est beaucoup plus que ce que les enquêtes de victimation disent. Hein, éventuellement, on pourra en reparler, c'est que je pense que les victimes de sexe masculin sont en réalité beaucoup plus nombreuses que ce que les enquêtes de victimation disent, mais les personnes concernées ont sans doute beaucoup plus de difficultés à le dire que lorsqu'il s'agit d'une femme, d'une jeune femme, ou etc. Pour tout un tas de raisons, c'est plus compliqué à dire. Donc je reviens aux affaires où les enfants sont des victimes dans le cercle intrafamilial. Ce qui est étonnant dans ces affaires, c'est que lorsque on lit les auditions des agresseurs, et ils ont été auditionnés un paquet de fois, hein, par la police, par la gendarmerie, par le juge d'instruction, une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, par l'expert psychologue, par l'expert psychiatre, c'est qu'ils expliquent assez bien que les violences qu'ils ont commises sont des sortes de passages à la limite. C'est-à-dire que un violeur, ça vient pas tout de suite d'une certaine façon. On ne naît pas violeur ou agresseur sexuel. Et ils expliquent parfaitement bien que ça démarre par des gestes, des agissements tout à fait ordinaires d'un père ou d'un grand-père, en l'occurrence prenons le cas d'un père, avec sa fille ou avec son fils, dans un cadre très quotidien, des échanges de câlins, des échanges de caresses, des échanges de bisous, d'autant plus prononcé que l'enfant est petit, des jeux, au moment du coucher, au moment de la sieste, au moment du déshabillé, au moment du bain, au moment de la douche, quand on regarde la télévision, au fond des moments ordinaires de la vie ordinaire, avec des échanges charnels, mais qui paraissent tout à fait normaux, voire même qu'on encourage, si je puis dire, entre un père, pour prendre le cas d'un père, sa fille ou son fils. Et puis, premier passage à la limite, premier décrochage, il l'explique parfaitement bien là aussi, le père en l'occurrence, et il dit « j'ai ressenti un plaisir que je connais, un plaisir que j'ai déjà ressenti, sous-entendu un plaisir d'ordre sexuel. Si on devait le dire en des termes très concrets, j'ai eu une érection, ou j'ai ressenti quelque chose de l'ordre d'une érection. » Et ils savent parfaitement bien qu'il y a quelque chose qui est pas, entre guillemets, normal.
Qui est pas à sa place.
Qui est pas à sa place. Exactement. Qui n'est pas à sa place. Comme, et eux-mêmes en sont presque étonnés, parfois. Voilà. Ils savent parfaitement bien, enfin, dans tous les documents que j'ai pu lire, les auditions, il n'y en a aucun qui dit j'ai ressenti ça et ça m'a paru normal et point barre. Pas du tout. Ils sentent, ils identifient eux-mêmes qu'il y a un décrochage, là, un décalage, qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas dans la continuité de l'échange charnel avec l'enfant, du câlin et de... Parce que l'interdit de l'inceste, il est en réalité parfaitement intégré. Parfaitement intégré. Enfin, et non, au final. Mais il est parfaitement intégré, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement capables de vous dire, on sait très bien qu'on n'a pas le droit.
D'un point de vue intellectuel, d'un point de vue intellectuel,
plus qu'intellectuel, d'un point de vue rationnel, d'un point de vue presque, d'abord moral, très souvent moral, ils brandissent parfois l'interdit de l'inceste en disant, on n'a pas le droit d'eux. Mais, alors quoi? Là, pour le coup, nous, on passe le bébé au psy,
hein,
c'est
nous,
sociologues, parce que là, on ne sait plus. Ouais. Là, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe pour qu'ils identifient eux-mêmes un plaisir, c'est intéressant d'ailleurs quand il dit « j'ai reconnu un plaisir d'ordre sexuel », ils l'ont reconnu parce que ce sont des hommes qui ont eu une vie sexuelle ou qui ont une vie sexuelle et qui savent parfaitement bien identifier le plaisir. Mmh. Ça, c'est le premier passage à la limite, le premier décrochage. Et le second qui est aussi important que le premier, c'est que rien ne les empêche de continuer. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent sur leur route aucun obstacle qui les empêche d'aller y retourner une seconde fois, une troisième fois, une quatrième, puis une 150e fois. Et c'est presque aussi important d'une certaine façon que le premier décalage ou le premier passage à la limite. Et ça aussi, il l'explique très bien. C'est-à-dire que ils vont aller d'une certaine façon rechercher presque ce plaisir sexuel-là ou le ne pas s'en priver. Et ils expliquent très bien en disant, l'enfant ne s'y oppose pas. Un enfant ne s'oppose jamais à son parent. On y reviendra éventuellement. Et l'entourage ne s'y oppose pas non plus. Ce qui pose la question de que dit l'entourage, que voit l'entourage, que fait l'entourage, que soupçonne l'entourage. C'est un peu, si vous m'autorisez cette comparaison extrêmement osée d'une certaine façon, mais pour donner une image un peu claire, c'est comme si quelqu'un traversait en dehors des clous et il n'y a personne pour lui dire qu'il traverse en dehors des clous. Il sait parfaitement bien qu'il traverse en dehors des clous, mais personne ne vient le lui signaler. Personne ne siffle, d'une certaine façon, la fin de l'agissement. Et ça peut durer comme ça des années. Et je trouve que ce deuxième passage à la limite, entre guillemets, il est aussi important que le premier. Hein, parce que du coup, ils vont, solution de facilité, façon d'éprouver du plaisir. Ce sont pas des hommes qui, tout à coup, vont d'un coup sauter sur leur enfant et le violenter et lui faire du mal. Elle est là, la difficulté aussi. Si, à la limite, c'était des pères ou des beaux-pères qui tapaient sur le gamin en même temps que... Mais non, c'est beaucoup plus subtil, si j'ose dire, que ça, beaucoup plus fin que ça.
Est-ce que vous avez rencontré, au cours de cette enquête, des dossiers dans lesquels une femme était auteur de viol ?
Très peu. Je crois que sur plusieurs centaines de dossiers, 450 très précisément, 460, nous avons 8 ou 9 affaires où les femmes sont auteurs de viol, enfin, sont comme auteurs de ces affaires. Sachant que dans 5 ou 6 d'entre elles, en réalité, elles ont été accusées de complicité.
D'accord.
De viol. Reste, si mes souvenirs sont exacts, 2 ou 3, je me souviens très bien de 2, peut-être 3 affaires, où la femme, en l'occurrence, ont été accusées de viol en tant qu'auteur principal du viol. Donc, c'est dire si c'est quand même une très très large, c'est presque une rareté, quoi, d'une certaine
façon. Alors, pourquoi ? Est-ce que vous avez une explication ?
Faudrait remonter en amont. Qu'en est-il des femmes auteurs de violences sexuelles, même dans les enquêtes de victimation, c'est-à-dire que lorsque dans les enquêtes de victimation, on demande aux victimes si elles peuvent donner le sexe de leur auteur, dans la grande majorité des cas, ce sont quand même des hommes qui sont des auteurs. Et peut-être également, y a-t-il encore moins d'affaires dont les femmes sont auteurs qui arrivent en justice. Tout ça, ce sont des hypothèses. Hein. Il faudrait le vérifier. Il est vrai qu'on a très très peu d'affaires, voire quasiment aucune affaire où on trouve des femmes auteurs de viols qui arrivent en justice, en tout cas qui arrivent aux assises, et même qui arrivent en justice, parce que là, je termine une autre recherche où on étudie des dossiers de viols à toutes les étapes de la chaîne pénale, y compris depuis le stade du classement sans suite. Eh bien, on trouve aussi, elles tiennent dans les doigts d'une main, quoi. Je veux dire le nombre d'affaires où des femmes sont impliquées. Alors, est-ce que c'est parce que il y a de fait un nombre extrêmement rare ou très faible de femmes auteurs de violences sexuelles, et ou parce que elles arrivent encore moins en justice que les autres. Si on retient l'hypothèse qu'elles arrivent en proportion encore moins en justice que les autres, moi je pense que c'est pour des raisons à peu près symétriques le fait qu'il y a aussi assez peu d'affaires qui arrivent en justice où les hommes sont des victimes. Je pense que c'est impensable. Ça reste de l'ordre de l'impensé, je pense que c'est très rare, et ça reste de l'ordre de l'impensé, et c'est très particulier. Les affaires que j'ai pu, moi, regarder, étudier, où des femmes sont impliquées, c'est vraiment des cas extrêmement singuliers, extrêmement particuliers, avec des circonstances, des contextes d'une grande violence, d'ailleurs, en général, d'une très, très grande violence. Donc, je pense que c'est à la fois rare et peut-être aussi en partie sous-estimé.
Est-ce que vous avez rencontré des dossiers où l'agresseur était un adolescent ?
Oui, nous avons bien sûr rencontré des dossiers où les mineurs, alors en langage judiciaire, c'est toujours pareil, adolescent, ça ne veut rien dire, c'est majeur et mineur. On a trouvé, nous, deux types d'affaires, deux types de situations, deux types de viols, dans lesquels des mineurs peuvent être notamment, voire majoritairement impliqués. D'abord, ce sont des viols intrafamiliaux entre frères et sœurs ou entre cousins et cousines. Où là, les agresseurs sont des adolescents, la plupart du temps, qui s'en prennent à des petites filles majoritairement, ou des petits garçons aussi, d'ailleurs, de leur famille. Famille sans, soit au sens étroit du terme, soit au sens élargi. Frère sur sœur, demi-frère sur demi-sœur, cousin sur cousine, voilà à peu près le cas de figure que l'on a. Et ce qui nous a frappé dans ces affaires-là, c'était que bien souvent, c'était dans des familles où la place des uns et des autres n'est pas claire du tout, ce que les psychologues ou les psychiatres appellent des familles où règne une sorte de climat incestuel. Ou bien souvent, l'auteur, qui est jeune, hein, qui peut avoir, ce sont pas des enfants, ce sont des ados, mais enfin, on trouve des affaires avec des pré-ados de 10, 11, 12, 13, 14 ans, qui bien souvent évoluent dans des familles où ils savent plus très bien qui ils sont, où l'ordre du désir est tourneboulé d'une certaine façon, où on ne sait plus envers qui on a le droit d'éprouver du désir ou de ne pas éprouver du plaisir, ou alors dans lesquels aussi le viol, là encore, devient un instrument au service d'une sorte de règlement de compte intrafamilial, où très clairement on a le sentiment que le frère s'en prend à la sœur ou le demi-frère à la demi-sœur, pas parce qu'il en veut à la sœur ou à la demi-sœur, mais parce qu'il y a des comptes à régler au sein de la cellule familiale. Bien souvent, d'ailleurs, une sorte de sonnette d'alarme sur « qui suis-je ? Quelle est ma place ?» Donc là aussi, les sociologues renvoient au psy d'une certaine façon en disant « ouïouïouï, on a le sentiment là ». Là aussi, d'ailleurs, les auteurs l'expliquent très très bien. On a le sentiment qu'ils sont complètement perdus, à la fois dans la filiation verticale et dans la place horizontale. Voilà, ce sont des affaires très 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 singulières là aussi, mais qui de notre point de vue relèvent plus du traitement, de l'accompagnement psycho-éducatif que du pénal, hein, de notre point de vue. Et on trouve aussi d'autres affaires dans lesquelles les auteurs sont souvent majoritairement là aussi des mineurs et qui agissent en groupe. Alors, c'est ce qu'on appelle ou ce qu'on range sous le vocable de viol collectif. Il y a des viols collectifs qui sont commis par des majeurs, bien évidemment, mais beaucoup d'entre eux sont quand même commis par des mineurs. Et dans les affaires de viols commis par des mineurs, ce sont très souvent des viols collectifs. Voilà, il y a une sorte de presque de marque de fabrique, si j'ose dire. Et alors, quelles sont ces affaires de viol collectif? On trouve, là aussi, plusieurs circonstances, plusieurs contextes, etc. Mais ce qui nous a frappé, c'est que bien souvent, dans ces affaires, le viol est une sorte de rite initiatique, est une sorte d'initiation à double titre, d'ailleurs. Soit une initiation sexuelle, soit une initiation au sens où les ethnologues en parlaient d'acquérir sa place dans le groupe. Alors, initiation sexuelle, j'ai été frappée, moi, dans ce que plusieurs de ces affaires, le jeune vit là sa première relation sexuelle. Et ça se termine en viol. Oui, on a presque envie de dire ça. Et ce sont souvent des jeunes garçons qui sont dans la difficulté pour formuler leur désir sexuel, savent pas mettre des mots sur la chose, qui s'y prennent vraiment très très mal pour dire leur envie de l'autre, dont les gestes sont, on a presque envie de dire, inadaptés au fond à la situation, bien souvent aussi sur fond d'alcool ou sur fond de produits stupéfiants, qui savent pas dire, qui sont maladroits, qui rougissent, qui savent pas utiliser les mots, dire simplement « j'ai envie de toi, je te désire, j'ai envie de t'embrasser, j'ai envie de faire l'amour », enfin des gestes, des mots qui apparemment paraissent simples. et qui, faute de pouvoir les formuler, vont passer à l'acte de façon agressive, de façon violente, de façon, etc. Mais, et qui vont trouver là, pour le coup, leur première occasion de relation sexuelle. Et puis, on trouve aussi l'initiation au sens place dans le groupe. Les viols collectifs, alors viols collectifs, ça commence à deux, mais bien souvent, c'est les auteurs sont trois, sont quatre, sont cinq, sont six, sont huit, sont neuf. Très difficile de savoir qui fait quoi, au final d'ailleurs. Hein. Et on trouve parfois des jeunes dans lesquels c'est la relation au groupe de jeunes qui prime, plutôt que la relation à la victime. Au fond, la victime n'est jamais, encore une fois, qu'un instrument, qu'un objet, un objet sexuel en l'occurrence, d'un groupe dans lequel la pression et la contrainte est si forte que ne pas passer à l'acte, c'est ne pas faire partie du groupe. Je me souviendrai souvent, on voit toujours d'une affaire, d'un dossier dans lequel un jeune, 15 ans et demi, 16 ans, dit « je préfère être un violeur plutôt qu'être un PD ». Sous-entendu, je préfère appartenir au groupe dans lequel la construction de la virilité est en pleine élaboration, une virilité un peu rude, une virilité un peu dure, une virilité qui implique à leurs yeux de mettre à distance le plus possible tout ce qui touche à la féminité,
à la tendresse,
à la douceur, à la câlinerie, et donc à la femme qui est en eux, bien évidemment, voire à l'enfant qui est en eux, plutôt que d'être, comme il dit, un PD. Donc, on voit bien combien la pression du groupe, la contrainte collective dans ces agissements-là est extrêmement forte, la victime n'étant jamais, entre guillemets, à leurs yeux, qu'un objet sexuel comme un autre.
L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.